atelier pour les enfants qui vont monter, pour la classe de la Bible, et puis pour la parole qui sera annoncée. Notre Dieu, oui, tu es digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire. Tu es le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui donnes la vie, le mouvement et l'être. Tu es celui qui nous a aussi tant aimés, qui a manifesté cet amour en envoyant son Fils Jésus, qui a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour tout cela. Et nous te remercions pour les enfants que tu as placés parmi nous. Merci de nous les avoir confiés, que tu les bénisses et que tu leur donnes un cœur disposé pour écouter ta parole, que tu bénisses les monitrices qui vont les encadrer. Et nous te demandons aussi de disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole. Nous remettons ceux qui sont dans la peine, ceux qui souffrent à cause de la perte d'un proche, notamment notre frère Pascal et toute sa famille, que tu puisses lui apporter la consolation, leur apporter la consolation dont ils ont besoin dans ces instants difficiles. Sois loué, nous te prions, au nom de Jésus. Amen. Voilà, les enfants peuvent monter pour la classe de la Bible avec les monitrices. Je vous propose d'ouvrir la parole de notre Dieu dans l'épître de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 1. Nous allons lire aujourd'hui les 14 premiers versets. Et à travers ce texte, nous voulons, avec l'apôtre Paul, rendre grâce à Dieu. En tout cas, c'est l'exhortation que j'aimerais faire ressortir de ce passage que nous allons lire. Il rend grâce à Dieu pour les chrétiens de Colosse. Mais aussi, il demande à ses chrétiens de rendre grâce à Dieu. Et nous avons lu un texte dans Timothée où, justement, il exprime ses actions de grâce envers Dieu qu'il a sauvé, lui, le blasphémateur, le persécuteur de l'Église. Alors, j'aimerais vous inviter à la lecture. Nous lisons Épître de Paul aux Colossiens à partir du chapitre 1, à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en lui, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Voilà, nous arrêtons là pour la lecture. Dans ces 14 premiers versets de l'épître de Paul aux Colossiens, cette épître a été écrite donc par l'apôtre Paul, comme on le voit dans ce premier verset. L'apôtre était emprisonné à Rome dans les années 60, après Jésus-Christ. Cette église de Colosse a été fondée très probablement par Épaphras et pas par l'apôtre Paul, parce qu'à plusieurs reprises, l'apôtre Paul dit que, par exemple, il dit qu'il n'a pas vu, les chrétiens n'ont pas vu son visage. Il dit qu'il a été informé de la situation de cette église. Et il parle donc d'Épaphras, bien-aimé compagnon de service. Et donc, cette église de Colosse, dans cette église, il y avait par exemple Philémon aussi, à qui l'apôtre Paul adresse une lettre spécifique en faveur d'Onésime. Et donc, cette église de Colosse reçoit cette lettre quelques années après, après sa fondation, on peut dire. L'église était confrontée à des fausses doctrines qui niaient la divinité de Jésus, qui ne reconnaissaient pas que Jésus est le Fils de Dieu, donc que Jésus est Dieu, et qui niaient aussi l'humanité de Jésus-Christ. Ces fausses doctrines prônaient également un retour au légalisme, donc il y avait une autre influence juive, mais aussi le but de la lettre que l'apôtre Paul adresse à cette église, c'est de réaffirmer l'enseignement des apôtres pour ce qui concerne donc la personne de Jésus, son œuvre, pour réaffirmer ce qu'est l'église, mais aussi la vie du chrétien. En lisant ces premiers versets, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles en Christ qui sont à Colosse, j'aimerais juste déjà faire une petite parenthèse, mais ô combien, à mon sens, important, parce que maintenant, lorsque vous allez sur Internet, vous tapez le mot apôtre, vous allez trouver des personnes qui se nomment apôtres. Et personnellement, ça me gêne. L'apôtre Paul, il ne dit pas Paul, apôtre de Jésus-Christ, et Timothée, apôtre aussi. Apôtre, le terme, c'est envoyé. Et ceux qui ont le titre d'apôtre dans la parole de Dieu, et la définition est aussi donnée dans la parole de Dieu, ce sont ceux qui ont vu Jésus ressuscité, qui ont été appelés par lui et qui ont reçu ce mandat spécifique. Et donc, une fois que ces apôtres sont morts, il n'y a pas d'apôtres dans le même sens, avec cette même force, apôtres de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, il a envoyé Timothée à un moment à Corinthe, et Timothée avait ce ministère apostolique, parce qu'il a été envoyé. Mais à un court moment, il dit Timothée, apôtre de Jésus-Christ. Et donc, dernièrement, je discutais avec un jeune, mais il me dit, mais que penses-tu des apôtres ou des prophètes, etc. Mais revenons à la parole de Dieu. Et donc, ces personnes qui mettent ce titre d'apôtre, pour moi, ce n'est pas biblique. Et ça me gêne parce qu'on fait là une confusion. En tout cas, le titre d'apôtre est dans l'épître aux Corinthiens et dans d'autres, l'apôtre Paul défend ce titre d'apôtre qui était remis en cause par justement les faux docteurs et il dit en quoi il est un apôtre et en quoi sa parole, ce qu'il annonce, ce qu'il prêche est il a été reconnu aussi par les autres apôtres, Pierre et les autres, qui lui ont donné la main d'association. Et c'est à eux, et à eux seuls, que le Seigneur a donné ce mandat d'établir l'Église par leur enseignement et rappeler quelles sont les vérités que le Seigneur voulait que nous gardions. Donc c'est ça que je voulais quand même le dire, parce que on entend vraiment n'importe quoi maintenant. Dans ce passage, l'apôtre Paul exprime sa reconnaissance. Et pendant ce culte, et lorsque nous nous retrouvons, c'est pour cela aussi. Et c'est surtout pour cela. Pour exprimer à Dieu notre reconnaissance. Et dans ce texte que nous avons vu, l'apôtre exprime sa reconnaissance pour l'œuvre de Dieu dans la vie des Colossiens, dans les versets 3 à 5. Il exprime sa reconnaissance pour les progrès de l'Évangile, dans les versets 6 à 8. Il leur fait part des sujets, pourquoi il prie pour ces Colossiens. Donc, il adresse à Dieu des prières, notamment pour que ces chrétiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Et à la fin, c'est pour ça que j'ai lu les versets 12 à 14, il encourage, il exhorte ces chrétiens à rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait, de sorte que Dieu a fait d'eux des enfants, il les a arrachés de la puissance des ténèbres pour les transporter dans son royaume bien-aimé. Donc, c'est en cela que j'aimerais nous encourager, nous appuyant sur cela, à nous encourager à rendre grâce à Dieu. Et parfois, quand on a ce temps de prière, d'action de grâce, parfois certains disent on ne sait pas toujours quoi dire. Et là, l'apôtre Paul nous donne dans ce passage des exemples, des sujets qui pourraient nous montrer que voilà, il y a énormément de raisons pour rendre grâce à Dieu. Et c'est pas dans seulement en Colossiens qu'il le fait. Hein. On l'a lu le texte tout à l'heure dans Timothée, l'apôtre Paul, sans cesse, il rend grâce à Dieu et il demande à Dieu, dans ce passage, il rend grâce à Dieu parce qu'il sait que ce que le Seigneur a fait pour lui, il sait que tout vient de Dieu, comme dit Jacques au chapitre 1, que toute grâce excellente, tout don parfait descend de Dieu. Donc, quel que soit ce qu'il peut rencontrer, toutes les situations, il voit la main de Dieu et il remercie le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, a exprimé aussi sa reconnaissance envers son Père. Et il a rendu grâce pour les voies insondables lorsque ses disciples sont revenus, leur racontant au Seigneur tout ce qu'ils ont pu faire avec la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Je te loue, Père, de ce que tu l'as voulu ainsi. » Alors, le Seigneur, il rend grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu pour, par exemple, avant de faire la multiplication des pains, voilà, il a rendu grâce à Dieu pour la nourriture qu'il va pouvoir donner à cette foule. Il rend grâce à Dieu même avant la résurrection de Lazare, parce qu'il sait que Dieu va ressusciter Lazare. Et il remercie Dieu déjà pour ce qu'il va faire. Le Seigneur Jésus a rendu grâce lorsque, avant de donner sa vie, il a justement institué la scène. Lorsqu'il a pris le pain, lorsqu'il a pris la coupe, il a rendu grâce à Dieu pour le pain, dont il sait qu'il symbolise son corps. Donc il rend grâce à Dieu de ce que lui-même est celui qui va s'offrir en sacrifice pour les pécheurs. Le Seigneur Jésus-Christ a rappelé, et c'est Luc qui nous qui nous dit cela dans Luc chapitre 17, lorsqu'il souligne l'importance qu'il y a et l'importance que Dieu accorde au fait d'être reconnaissant. Dans Luc chapitre 17, les versets à partir du verset 11, lorsqu'il guérit ses 10 lépreux, il dit: Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Et verset 12, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Et Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Rendre grâce à Dieu, c'est donner gloire à Dieu. Et il dit: n'y a-t-il que cet étranger, ce Samaritain, pour donner gloire à Dieu? Donc lorsque nous rendons grâce à Dieu, nous voulons vraiment glorifier notre Seigneur pour ce qu'il fait. Et le psalmiste, le psaume 50, il dit: offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Dans ce passage de Colossiens, l'apôtre Paul rend grâce, déjà, il est dit au verset 4, à cause de la foi en Jésus-Christ de ces Colossiens. Il dit donc: nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés, il est dit, de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, et à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Donc la première des choses, c'est qu'il rend grâce à cause de la foi de ces chrétiens, en la foi en Jésus-Christ. Il sait que parce que ces chrétiens sont devenus chrétiens, ces Colossiens sont devenus chrétiens, et pour qu'ils deviennent des chrétiens, ces personnes d'origine païenne, ces personnes ont entendu l'évangile, ces personnes ont mis leur foi en Jésus, ont reconnu que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est celui qui s'est humilié et qui a donné sa vie sur la croix. Et ils ont reconnu leur état devant Dieu, qu'ils étaient pécheurs et qu'en croyant en Jésus, ils ont le pardon de leurs péchés. Donc ils ont mis leur foi en Jésus-Christ. Et en mettant leur foi en Jésus-Christ, ils ont manifesté cette foi. Et cette foi a été manifeste, je le dis dans l'autre sens, cette foi a été manifeste dans le sens qu'ils aimaient les frères et sœurs. L'apôtre Paul rend grâce à Dieu aussi à cause de leur amour pour les autres chrétiens. La foi ne va pas sans l'amour. On ne peut pas dire qu'on a foi en Dieu si en même temps on n'aime pas son frère. Ce n'est pas possible. Et on manifeste l'amour envers les frères et sœurs parce que nous avons le même Seigneur. Et donc l'apôtre Paul reconnaît la réalité de la foi de ces Colossiens parce qu'ils aiment leurs frères et sœurs. Et comment on peut montrer qu'on aime les frères et sœurs si ce n'est qu'en étant avec eux, si ce n'est qu'en vivant, en partageant les choses avec eux et en leur manifestant notre amour de façon diverse et variée. Lorsque notre frère, le frère ou la sœur est dans le deuil, eh bien on montre cet amour à ce frère ou à cette sœur aussi, comme cela. Et donc, dire qu'on a la foi et ne pas montrer la réalité de cette foi en étant avec ceux qui aiment le Seigneur, là, il y a là aussi un problème. Et le Seigneur Jésus-Christ, il dit à ses disciples, il leur donne ce commandement, et Jean, dans ses épîtres, reprend aussi ce commandement, de vous aimer les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, on ne peut pas dire qu'on est disciple de Jésus si on ne montre pas l'amour qu'on a pour les frères et les sœurs. Et donc l'apôtre Paul rend grâce à Dieu parce que cet amour était manifeste. Et Epaphras, lorsque Epaphras est venu le voir alors qu'il était en prison, il a parlé de cet amour qu'avaient ces chrétiens de Colosse envers les frères et sœurs. Il rend grâce à Dieu aussi pour, il dit, pour l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Et là, l'apôtre Paul demandait aux Éphésiens, il disait qu'il priait pour les Éphésiens que Dieu puisse illuminer les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et là, l'espérance, le Seigneur nous donne une espérance lorsque nous venons à lui. Nous savons que notre Seigneur Jésus revient bientôt. Et nous attendons le retour du Seigneur. Nous sommes des, en tant que chrétiens, nous avons cette espérance de notre glorification future aussi, que ce corps corruptible sera changé en corps incorruptible et qu'il n'y aura plus de souffrance, qu'il n'y aura plus de peine, etc. Et donc, nous savons que lorsque Jésus-Christ va revenir, il va changer tout cela. Et donc, nous vivons en espérance. Nous avons l'assurance de la vie éternelle aussi. Donc, lorsque nous parcourons cette vie sur cette terre, nous ne sommes pas comme des gens qui vivent sans espérance et sans Dieu. Nous vivons avec le regard vers notre Seigneur qui nous assure ces réalités. Alors, est-ce que ces trois choses... Est-ce qu'elle demeure en vous? La foi, l'espérance et l'amour. Avez-vous foi en Jésus-Christ pour votre salut? Il faut se poser cette question. Et c'est la chose essentielle. Est-ce que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ? Est-ce que vous avez reconnu que vous êtes pécheur, que vous avez besoin d'un sauveur? Est-ce que vous êtes prêt à abandonner votre vie de péché pour donner gloire à Dieu? Est-ce que vous voulez passer de la mort à la vie? Est-ce que vous avez envie de servir le Seigneur? Alors le Seigneur nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La foi, l'amour pour nos frères et sœurs. Est-ce que nous le manifestons? Comment le faisons-nous? Est-ce que nous avons du plaisir à être avec nos frères et sœurs et leur montrer combien qu'on les aime d'une façon ou d'une autre? Est-ce que nous gardons toujours devant les yeux l'espérance qui s'attache à notre appel pour vivre, comme il est dit, dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété? Est-ce que nous oublions que le Seigneur revient bientôt, qui fait que ce qui compte pour nous, c'est toutes sortes de choses, sauf les choses essentielles, parce que nous perdons en vue cette espérance. Voilà. L'apôtre Paul, il rend grâce à Dieu pour la foi de ses Colossiens, leur amour pour les saints et l'espérance qu'ils ont gardée. Il rend grâce aussi à Dieu pour l'Évangile, le verset 6 à 8. Puisque si les chrétiens de Colosse étaient donc au bénéfice de ces grâces, donc la foi, l'espérance et l'amour, c'est parce qu'ils ont entendu la parole de la vérité, que l'apôtre Paul appelle aussi la parole de l'évangile, et ils ont entendu cette parole par Epaphras, ou bien l'apôtre Paul a été un instrument entre les mains de Dieu lorsqu'il était à Éphèse, parce qu'il est resté un certain temps à Éphèse, et même Epaphras, certains pensent qu'Epaphras aurait connu le Seigneur parce qu'il a entendu l'évangile à Éphèse, qui n'était pas très loin, et que retournant à Colosse, il a aussi annoncé l'évangile et permis à un certain nombre de personnes de mettre leur foi en Jésus et fonder cette église de Colosse. Et l'apôtre Paul rend grâce à Dieu pour cet évangile. Il dit, Il est au milieu de vous, dans le monde entier, il porte des fruits, il s'accroît comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. L'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il y dit, il est au milieu de vous et il est dans le monde entier. En tout cas, dans le monde connu par lui, ce monde romain, il porte des fruits, il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, l'apôtre Paul dit. L'évangile dont il est question est le même qui était d'abord prêché par le Seigneur Jésus-Christ lui-même lorsqu'il était sur la terre. Et dès le début de son ministère, après son baptême, après que Jean eut été décapité, dans les évangiles, nous disons que le Seigneur allait dans la Galilée, il allait de lieu en lieu, prêchant l'évangile de Dieu, et il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Dans Marc chapitre 1, versets 14 à 15. Voilà, c'est le message que le Seigneur Jésus-Christ annonçait. Et en voyant les miracles que le Seigneur faisait, et avec la puissance de la parole qu'il annonçait, des personnes, par exemple, ceux qui étaient disciples de Jean-Baptiste, comme André, comme Jean, ont quitté Jean-Baptiste, hein, on lit ça dans Jean chapitre 1, pour suivre le Seigneur Jésus, donc le fait de suivre Jésus et donc devenir disciple de Jésus-Christ. Et donc, lorsque Jean-Baptiste leur a dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde, alors ils ont compris que c'est Jésus qui peut leur apporter le salut. Et André, lorsqu'il allait vers son frère Pierre, dit, viens voir celui que j'ai rencontré, ne serait-ce pas le Messie? Et puis après, il a appelé Nathanaël, etc. Et c'est comme ça qu'en annonçant cet évangile, cette bonne nouvelle, Jésus, lui, le Messie, alors les disciples sont venus, les gens venaient de partout et entendaient et voyaient le Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont mis leur foi en lui. Et on l'a lu dans Luc chapitre 5, lorsqu'après il revoit Pierre, il dit à Pierre de jeter son filet. Pierre jette son filet. Il se met après ce miracle, il se met à genoux. Il dit, ôte-toi de moi, je suis un homme pécheur. Le Seigneur dit, je ferai de toi aujourd'hui un pécheur d'homme. Il voit Matthieu qui est péagé. Il dit, viens, suis-moi. Et encore aujourd'hui, cet évangile, le Seigneur l'a donné à ses disciples. Il leur a dit, restez à Jérusalem. Et lorsque je vais retourner vers mon Père, vous allez recevoir ce qui avait été promis, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc cet évangile, ces apôtres ont eu cette mission de l'annoncer, et pas seulement les apôtres, nous avons tous reçu cette mission, ce mandat du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer cet évangile. C'est pour ça qu'il est important que nous fassions tout pour que cet évangile puisse continuer à se propager. Et dit, le Seigneur a dit, allez de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, jusqu'à ce qu'ils reviennent, il le dit. Donc, cet évangile, la parole de la vérité, ces chrétiens de Colosse l'ont entendu et mis leur foi en Jésus-Christ. Alors l'apôtre Paul rend grâce à Dieu pour cet évangile, et que je voudrais souligner cet évangile qui est unique. Il dit que cet évangile, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Pour dire que cet évangile que les Colossiens ont entendu, c'est l'évangile que les Éphésiens ont entendu, c'est l'évangile qui s'est propagé par les apôtres qui sont partis un peu partout. Cet évangile est unique. Il n'y a pas d'autre évangile. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Galates. Il leur dit que même si un ange venait annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. Vous voyez ? Et donc, comment savoir quel est le vrai évangile ? Il n'y en a pas d'autre. Et ce que l'apôtre Paul disait à Timothée, de garder le bon dépôt, garder justement cet évangile, cette parole de vérité, nous l'avons consignée, et elle est là consignée, cette parole. Et nous pouvons analyser, nous pouvons étudier, nous pouvons voir si ce qui est annoncé, est-ce que c'est conforme à ce qui est écrit. Et l'apôtre Paul, dans son temps, était déjà confronté à ces faux docteurs. Et Pierre nous dit aussi que, de la même manière qu'il y avait des faux prophètes, il y aura aussi des faux docteurs. Et donc, en cela que ça me fait revenir à ce que je disais au départ, lorsque des personnes utilisent un titre comme apôtre et qui font de leur parole parole de Dieu, c'est un faux docteur, puisque la parole, nous l'avons. Et cet évangile est unique, cet évangile n'a pas changé. Et nous devons veiller, frères et sœurs, à faire attention à ce que nous écoutons. Analysons, et quand c'est écrit noir sur blanc, il ne faut pas que l'on dise que ce n'est pas ce qui est écrit. Cet évangile est unique. L'évangile que Pierre a prêché, c'est le même évangile que l'apôtre Paul a prêché. Qu'Épaphras a prêché, il dit, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Un fidèle ministre de Christ. Et le fidèle ministre de Christ, c'est celui qui reste attaché à la parole de Christ, qui ne cherche pas à détourner cette parole d'une façon ou d'une autre. L'apôtre Paul rend grâce pour l'évangile qui est unique, et dans le monde entier, c'est cet évangile. Après, donc, veillons à ce que, voilà, l'évangile qui est annoncé, assurons-nous que cet évangile soit conforme à ce qui est écrit dans la parole. L'évangile transforme des vies. Et il dit que l'évangile, il porte des fruits. Et l'apôtre Paul loue le Seigneur pour ce qu'il fait dans les vies, dans la vie de ces chrétiens de Colosse. Et il voit que par l'action de la parole de Dieu, des vies sont transformées. Et c'est ce que le Seigneur Jésus dit aux Éphésiens aussi, qui nous purifie par l'eau de la parole. Et donc c'est cet évangile qui transforme les cœurs, cet évangile qui transforme des vies et qui fait que nous sommes de nouvelles créatures. Et l'apôtre Paul rend grâce à Dieu aussi. Il voit comment des hommes et des femmes sont transformés. Lui-même, il a vu ce que, et on l'a lu dans Timothée, il a vu comment Dieu a transformé sa vie, a changé son cœur pour faire de lui une personne nouvelle. Et il voit aussi cela dans la vie de ces chrétiens par rapport au témoignage que Epaphras et d'autres ont pu lui apporter. L'évangile transforme les vies. L'évangile a le pouvoir de transformer des vies. Il transforme de l'intérieur par la puissance du Saint-Esprit, et cela se voit à l'extérieur. Et ce n'est pas l'inverse. L'évangile permet aussi la croissance. Il dit qu'il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous. Cet évangile, il permet une croissance aussi bien qualitative que quantitative. Lorsque on laisse l'évangile transformer nos vies, c'est ça qui va faire que, en sorte que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, nous sommes une bonne odeur de Christ. Parce que cet évangile nous purifie de l'intérieur. Et nous propageons cet évangile à travers aussi la vie que nous manifestons. si nous montrons la réalité de que nous sommes des vrais chrétiens, que nous laissons Dieu changer nos vies, lorsque nous lisons la parole et qu'elle nous reprend, nous demandons pardon à Dieu et que nous la laissons nous transformer, les autres, ceux qui sont là autour de nous, voient qu'il y a quelque chose de différent en nous. Et ils vont chercher à le savoir, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as et que moi je n'ai pas ? Et cette croissance se voit aussi dans l'Église. Dieu va ajouter dans l'Église, il ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. C'est parce que, quand on voit dans les actes, c'est parce que les gens entendent l'Évangile et croient et ils vont dans la localité où ils se trouvent avec ceux qui partagent cette même foi. Sans cela que, pour moi, ce n'est pas un problème, le nombre. Le nombre est fonction aussi de la qualité. Ça ne sert à rien qu'il y ait du monde s'il n'y a pas la qualité. Et donc, laissons Dieu nous transformer, laissons Dieu nous changer, et ne nous inquiétez pas, les autres verront, et les autres seront convaincus aussi par le Saint-Esprit que Dieu peut faire la même chose dans leur vie. Alors, l'apôtre Paul rend grâce à Dieu pour tout cela. Il rend grâce à Dieu pour la foi de ces chrétiens en Jésus-Christ, pour l'amour qu'ils manifestent envers les chrétiens, pour l'espérance qu'ils ont, qu'ils gardent en Jésus et tout ce que Dieu promet à ses enfants. Il rend grâce à Dieu pour l'Évangile, pour l'œuvre de Dieu à travers sa parole qui ne change pas. Lit la parole de Dieu, elle est l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Cette parole ne change pas. Et donc Dieu, il y a 2000 ans, Dieu utilise sa parole aussi de manière, je dirais, tout simple, sans faire de gros tralala, mais c'est sa parole, elle est puissante. Elle est efficace et elle change des vies. Et laissez la parole de Dieu changer vos vies. Et pour cela, il faut la lire, il faut la méditer, il faut prendre le temps d'être à l'écoute aussi de la parole. Et donc l'apôtre Paul prie pour ses chrétiens. Après avoir rendu grâce, il intercède. Il intercède pour ses chrétiens. Il demande à Dieu que ses chrétiens soient remplis de la connaissance de sa volonté. Samedi dernier, on avait une rencontre de jeunes ici où le thème c'était comment connaître la volonté de Dieu, comment connaître et savoir la volonté de Dieu. Voilà, et c'est ce que l'apôtre Paul y prie. Il prie que ces chrétiens de Colosse soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il dit que c'est pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Hein? Pour porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et pour croître par la connaissance de Dieu. Donc, et après, il invite ces chrétiens à leur tour à rendre grâce au Père. Il leur dit au verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Là encore, mais je vais revenir la fois prochaine sur ce texte et il va donner des raisons encore pour lesquelles nous devons rendre grâce à Dieu à cause de Jésus-Christ pour qui il est. Il va parler de la prééminence de Jésus et alors que les faux docteurs liaient la divinité de Jésus, il dit non, Jésus, il est Dieu. Et donc, mais dit, avant de leur expliquer ça, il dit, mais déjà, rendez grâce à Dieu, parce que vous savez, Dieu, il vous a pris là, il vous a amené là. Et donc, nous voulons aussi rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous remercions notre Seigneur pour la parole de vérité, l'évangile que nous avons entendu, que nous avons reçu, pour la foi qu'il a fait naître en nous, parce que c'est un don aussi de Dieu. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà. Et donc, nous remercions notre Seigneur pour l'espérance, et même si la vie, elle est difficile, même si il y a l'inflation, même s'il y a ceci, même s'il y a cela, c'est pas ça qui va m'empêcher de continuer à avancer parce que je vois au-delà de tout cela. Et donc, nous bénissons notre Dieu pour l'Évangile. Réfléchissons ensemble, est-ce que cet Évangile agit en nous pour nous transformer et que nous puissions nous-mêmes être les témoins de Jésus-Christ, là où le Seigneur nous a placés. Qu'est-ce que nous faisons pour faire propager cet Évangile? On fait des distributions de traités, il y a différents moyens. Voilà, chacun peut se poser ces questions-là. En tout cas, cet Évangile, il n'y a pas d'autre Évangile. Et donc, éloignez-vous de ceux qui annoncent notre Évangile, et pour savoir si on annonce notre Évangile, ben alors retournez à la parole. Retournez à la parole pour voir ce qui est dit, ce qui est enseigné, pour voir si c'est conforme à la parole de Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais terminer ce culte, si vous le voulez bien, avec un chant qui dit « Merci d'un cœur reconnaissant ». C'est dans le j'aime le 454.